Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Corinne Morel-Darleux, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Corinne Morel-Darleux.
Bonjour à vous.
Vous étiez dans la liste L'Humain d'abord, mais vous venez d'annoncer que vous quittez le parti de gauche. Après avoir claqué la porte de la France insoumise cet été, vous êtes une fervente défenseuse de l'écosocialisme. Vous nous expliquerez le concept. À propos d'écosocialisme et compte tenu de l'actu, vous êtes tout de même au cœur du débat, un peu à votre corps défendant d'ailleurs, vous l'expliquerez un peu tout à l'heure, concernant l'actuel mouvement des Gilets jaunes.
Tout à fait, alors effectivement, j'avais déjà quitté la France insoumise au début de l'été et là j'ai pris la décision de quitter la direction du parti de gauche. C'est un parti auquel je reste très attachée parce que ça fait 10 ans que j'y milite, que j'y ai de nombreux camarades. Maintenant, 10 ans justement, ça fait beaucoup. Donc il y a une petite perte d'élan et puis après tout un besoin de renouvellement qui rejoint aussi d'ailleurs ce qu'on dit hein, sur le fait de ne pas vouloir faire des professionnels de la politique. Et puis il y a aussi et surtout un hiatus en fait, un décalage de plus en plus important pour moi entre la stratégie de prise de pouvoir par les élections qui est la stratégie de la France insoumise avec un positionnement sur le populisme, sur les référendums anti-Macron qui me semble en deçà en fait des exigences éco-socialistes au vu de la situation et de l'accélération surtout très inquiétante des règlements climatiques, des questions d'extinction du côté de la biodiversité. Et du coup, voilà, il me semble que je serai aujourd'hui plus utile ailleurs. Et en tout cas, j'ai envie de recentrer mon temps et mon énergie sur ces questions-là plutôt que sur des questions internes, de commentaires de l'actualité ou de processus électoral qui nous prend finalement beaucoup d'énergie et de temps qui ne sont pas utilisés ailleurs.
Et si vous vous représentez aux élections, ça sera sous quelle couleur ?
Oh là là, on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, c'est absolument pas mon propos. Moi, j'ai un mandat qui m'a été confié par les citoyens de la région dans l'opposition à Laurent Wauquiez, qui court jusqu'en 2021 et que je vais continuer à assurer de mon mieux. Mais pour l'instant, je m'en tiens à ça du côté des mandats. J'ai toujours été partisane de toute manière du mandat unique et d'une non-cumule. Donc je m'y tiens et j'assurerai cette tâche jusqu'au bout.
Mais vous êtes assez libre, d'autant vous avez déjà quitté le parti de gauche, vous êtes revenu. Hein,
Oui, je me suis toujours sentie effectivement assez libre dans ma manière d'analyser la situation et de faire aussi des ponts d'ailleurs avec d'autres réseaux, d'autres milieux. D'être aussi variée et pas sur de la langue de bois ou du discours unique. Donc effectivement, quand je suis pas d'accord, je le dis. Quand je suis minoritaire, j'en prends acte. Et puis je me sens, tout à fait cohérente en tout cas dans ma trajectoire, dans mes prises de position et donc assez à l'aise avec ces choix.
Au plan local, vous vous inscrivez dans quel département, pour préciser à nos auditeurs et auditrices ?
Moi, j'habite dans la Drôme. J'habite dans la Drôme, dans le Diois, donc au pied du Vercors, donc dans une zone à la fois rurale et montagnarde, dans laquelle y a justement beaucoup d'illustrations des difficultés politiques, économiques, sociales et environnementales, en fait, dont on parle beaucoup dans les journaux et les radios, mais de la part de gens qui ne sont pas forcément confrontés au quotidien. Nous, on est confrontés au quotidien à la disparition d'un certain nombre de services publics de proximité. On se bat pour conserver notre hôpital, pour conserver notre gare, nos trains, et puis pour essayer de faire en sorte de préserver aussi la montagne, la rivière, enfin, voilà, tout ce qui nous environne et qui fait qu'il fait encore bon vivre ici, dans le Diois.
Pour reparler de votre départ du parti de gauche, le mouvement des Gilets jaunes n'y est pour rien, hein. c'est clair.
Non, c'est pas une conséquence directe de faits d'actualité, c'est pas un mouvement d'humeur, c'est pas une réaction épidermique, c'est pas un coup de sang, c'est une décision qui est mûrement réfléchie, qui est la conséquence d'un cheminement, comme je vous le disais, qui est avant tout motivé en fait par la gravité de la situation écologique, plus que par des histoires politiciennes. Après, évidemment que le mouvement des Gilets jaunes, il interpelle comme il interpelle tout le monde, ou en tout cas comme il devrait interpeller tout le monde.
On va en parler tout à l'heure. Hein.
Voilà. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, c'est pas, c'est pas un positionnement d'un tel ou d'un tel qui me ferait prendre une décision aussi importante. Et je le redis, je reste une compagne de route du parti de gauche. Je vais garder ma carte par fidélité et symboliquement. Simplement, j'en quitte la direction et donc les processus internes et notamment tout le dispositif électoral qui, en réalité, revient quand même assez souvent. Hein. On a une élection tous les ans et si vous mettez bout à bout les questions de désignation interne qui font toujours beaucoup dégâts, les questions de négociation, d'alliance, de discussion tactique, voilà, tout ça dilue un peu notre temps et notre énergie, et aujourd'hui, il me semble qu'on a plus le temps, en fait.
Comment vous avez vécu l'épisode, on reparle un petit peu de la France insoumise, comment avez-vous vécu l'épisode de la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon, ou même au siège du parti, même si vous n'y étiez plus?
Alors, moi, je l'ai vécu comme l'ensemble des camarades très durement, parce que la première chose, c'est que il y a des personnes qui sont des êtres humains qui ont été perquisitionnés de manière ultra violente au petit matin chez elles avec leur famille, leurs enfants, avoir déboulé des forces de l'ordre suréquipées, leur maison et leur domicile retournées de fond en comble, leurs données privées saisies en même temps que les ordinateurs. Donc il y a d'abord eu un aspect très violent et humainement difficile qui est ce qu'on voit de plus en plus hein, dans les milieux syndicaux, militants, avec une répression policière très importante de la part du gouvernement. Et puis ensuite, évidemment, moi j'ai été comme tout le monde, j'ai vu les images, j'ai entendu aussi un discours vis-à-vis des journalistes qui n'est pas le mien, très clairement. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut regretter à certains journalistes, à certains organes de presse. Il faut poursuivre la critique des médias, dénoncer les collusions quand il y en a avec un certain nombre de pouvoirs financiers ou de lobbies économiques. Mais je pense que, là, moi, j'ai effectivement entendu des choses qui sont allées trop loin en termes de discours, teintés d'une très grande agressivité et que je trouve assez dangereux, en fait, et auquel je n'adhère pas.
Envers les policiers aussi, qui faisaient leur travail, je ne sais pas, ça
ne
vous a pas choqué ?
Alors après, c'est vrai que c'est une question compliquée parce qu'on ne peut pas non plus faire comme si la manière dont ces perquisitions se sont déroulées était normale et anodine. On a clairement un faisceau de perquisitions, de répression, d'intimidation et même d'arrestation dans les milieux contestataires aujourd'hui qui peut quand même que nous interroger sur l'indépendance du gouvernement, d'un certain nombre de forces qui devraient l'être, et notamment au premier chef, évidemment, la justice. Je pense à ce qui est en train de se passer avec les 10 malfaiteurs en bande organisée de Bure qui s'opposent à un projet absolument délirant d'enfouissement des déchets nucléaires dans l'est de la France et qui sont aujourd'hui sous le coup de condamnations très lourdes.
Très dur, oui.
Donc ça doit aussi nous interroger politiquement sur l'état de la société et les rapports entre les différents pouvoirs, notamment exécutifs et judiciaires.
Allez, on s'écoute un premier morceau, Eurythmics, Sweet Dreams, et on revient tout de suite après vers vous.
Some of them want to get used by you.
Voilà, on retrouve Corinne Morel-Darleux qui vient de démissionner du parti de gauche ce week-end après avoir claqué la porte de la France insoumise cet été. On vient de parler justement du climat au sein du parti de gauche, mais aussi au sein de la France insoumise. On va parler maintenant du mouvement des Gilets jaunes. Comment vous le percevez, vous, ce mouvement ?
Alors écoutez, moi je... Comme beaucoup de personnes, j'imagine, j'observe avec beaucoup d'attention ce mouvement depuis le début, et il me semble que d'ailleurs... voilà, il évolue lui-même, ce mouvement, il s'organise, les mots d'ordre qui étaient très centrés sur la question des taxes sur les carburants s'élargissent aux questions d'injustice sociale et, me semble-t-il, en tout cas, se politisent, ce qui, pour moi, aujourd'hui, est plutôt une bonne nouvelle, parce que, très honnêtement, j'étais très perplexe au début de la manière dont tout ça s'en manchait. Donc je le regarde avec à la fois critique et bienveillance, et surtout j'évite de faire ce que beaucoup d'observateurs politiques ont fait, c'est-à-dire des jugements à l'emporte-pièce, que ce soit dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. À la fois les réactions d'emblée méprisantes, mais aussi les réactions d'emblée enthousiastes qui se sont empressées de coller des étiquettes. Je crois, moi, que tout ce qui est populaire n'est pas révolutionnaire. Je crois que tout ce qui et anti-taxe n'est pas forcément poujadiste. Enfin voilà, je pense que on a manqué un petit peu de complexité d'analyse et de retenue sur les commentaires qui ont été faits sur ce moment depuis le début. Et donc voilà mon.
Il y a surtout l'épouvantail du populisme derrière, voire de l'extrême droite. On se dit que si ces gens sont méprisés, sont pas entendus, ils iront exprimer leur mécontentement dans les suffrages et ça risque de faire mal.
Je pense que c'est un risque, hein, effectivement. C'est-à-dire que et c'est pas d'ailleurs forcément. Ça peut être aussi à leur corps défendant. Je pense qu'il reste le risque, effectivement, que ce grand mouvement, effectivement, de colère, au final, bénéficie au Front National, qu'ils le veuillent ou non, d'ailleurs, tout simplement parce qu'on voit qu'on continue à battre des records d'abstention aux différentes élections, qu'il y a d'ailleurs visiblement de nombreux abstentionnistes parmi ces gilets jaunes, et que, malheureusement, souvent, la colère n'est pas toujours le meilleur ressort en politique, surtout quand elle n'est pas en mesure d'être débouchée en fait sur des revendications politiques progressistes. Moi, j'avais fait campagne en 2014, déjà au moment des européennes, justement dans la région, sur cette idée de belle colère et de faire en sorte que la colère populaire qu'on sentait déjà monter en 2014 ne bascule pas du côté de la haine. Je pense qu'on est un peu sur cette ligne de crête, et moi c'est ça qui m'intéresse, mais qui m'inquiète aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, et qui me fait penser que il y a voilà une politisation au sens noble du terme à soutenir et à développer au sein de ce mouvement, pour ne pas se focaliser uniquement en fait sur les conséquences les plus visibles de la crise sociale dans laquelle on est aujourd'hui, mais d'aller s'interroger aussi sur les causes. Et je crois que c'est ça notre rôle en tant que politique. Je parlais tout à l'heure du Diwa et de cette zone rurale où j'habite. Ici, il me semble que le problème principal n'est pas tant qu'il y ait des taxes sur les carburants. Le problème principal est qu'on a besoin de plus en plus de prendre sa voiture et de faire de plus en plus de kilomètres, parce qu'on nous a supprimé la maternité et un certain nombre de services d'urgence de l'hôpital, qu'il faut maintenant aller à Valence, hein, qui est à plus d'une heure de route, parce que le pôle emploi qu'on avait à Die est maintenant à Cray, et que là aussi ça oblige, en plus des gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont déjà en galère en termes économiques, ça les oblige à prendre leur voiture pour aller à Cray, parce que y a quelques trains, mais il y en a de moins en moins, et que ça aussi on est obligé de se battre pour garder les transports en commun. Donc c'est sur ces revendications-là que j'espère qu'on va réussir à faire évoluer justement ces revendications politiques, Parce que très honnêtement, la taxe sur les carburants ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de ces injustices sociales, de cette disparition des services publics, hein, de cette obligation d'exemplarité aussi d'un certain nombre de personnes, à commencer par Emmanuel Macron. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, cet été, faisait du jet ski dans une réserve naturelle protégée et que donc il est particulièrement mal placé aujourd'hui pour venir donner des leçons d'écologie à la population. Donc voilà, c'est tout ça aujourd'hui qu'il faut arriver à mettre en perspective pour sortir aussi de cette idée qui serait absolument dramatique d'une écologie qui serait forcément impopulaire, une écologie des élites, de l'oligarchie contre la population, ou d'une fiscalité qui serait rejetée en fait. Alors que la fiscalité peut être un instrument de redistribution des richesses. Simplement, aujourd'hui, elle ne l'est pas, mais ce n'est pas lié à la fiscalité en tant que telle, c'est lié à la manière dont elle est utilisée par ce gouvernement libéral, par ce système capitaliste, qui préfère redistribuer l'argent aux grandes entreprises par le biais de crédits d'impôt, aux très riches par la baisse de l'impôt sur la fortune. Voilà, donc on a là un sentiment d'injustice qu'il va falloir réussir à dépasser pour ne pas se tromper d'ennemis, quoi.
Un dialogue de sourds entre des gilets jaunes qui, dans leur très grande majorité, en sont parfaitement conscients de cette urgence, et pas mal de militants écologistes qui ne veulent pas voir les difficultés économiques de ces gens. Vous en avez déjà parlé, hein, vous l'avez déjà évoqué, mais le préalable pour vous, c'est pas de combattre le capitalisme, une recherche d'égalité. En fait, le préalable à toute autre cause humaniste n'est-il pas le partage des richesses à l'échelle mondiale, hein, s'entend?
Bien sûr, mais en fait, moi, ça fait depuis 10 ans que je milite en politique et que j'y prends des responsabilités. C'est mon cheval de bataille depuis le début. C'est tout le travail, en fait, qu'on a fait autour, justement, de cette idée d'écosocialisme qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement, en fait, que l'écologie est incompatible avec le capitalisme et qu'il n'y a pas d'un côté l'environnemental et de l'autre côté le social, que les deux choses doivent aller de pair. Et c'est aujourd'hui, on est à ce moment-là crucial où il faut s'assurer qu'on ne dissocie pas les deux. Je pense qu'il faut arriver à faire cette jonction, effectivement, entre cette injustice sociale qui est ressentie très fortement et à juste cause par les Gilets jaunes, et cette urgence climatique, environnementale, qui est de plus en plus, je crois, ressentie aussi par la majorité des gens, tout simplement parce que on commence à en voir les effets concrètement, hein, dans notre région, que ce soit les épisodes de sécheresse qui touchent les agriculteurs, que ce soit les montagnes qui s'écroulent du côté des Alpes. On commence à voir les effets de cette urgence climatique.
Alors on va titiller un peu les écologistes, hein. Bon, c'est sûr qu'il y a urgence climatique, on vient d'en parler, mais pas seulement. Les sols sont bousillés par les pesticides, la biodiversité bat de l'aile. C'est peu ragoûtant, effectivement, mais est-ce qu'on est obligé d'imposer une écologie sur fond de fin du monde? On la redoute, mais on n'y est pas encore, que diable. Avec une faute quasi originelle de l'humain, moi ça me rappelle le joug religieux, ça un peu, et le verbe croire.
Alors en fait, là, il s'agit pas effectivement de rentrer dans des histoires de croyances, ni même de savoir si on est optimiste ou pessimiste, en fait. Là,
Est-ce que l'humain est encore au cœur des préoccupations, ou est-ce que l'humain est coupable?
J'ai pas envie de poser la question dans ces termes-là. En fait, moi, j'ai envie de regarder ce que nous disent aujourd'hui les experts, les scientifiques, les climatologues, etc. Ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est que si on respectait les engagements pris lors de la COP21, donc ce sommet de négociation sur le climat à Paris, on irait vers une augmentation de la température moyenne à l'échelle de la planète de plus 3 degrés. Mmh. Or, ces engagements ne sont même pas respectés aujourd'hui. Et notamment pas par la France. On va assister à des phénomènes d'emballement et à des changements majeurs tels qu'on n'en a jamais connus. De la même manière, sur la question de l'extinction de la biodiversité, le fait qu'il y a des espèces qui disparaissent, La secrétaire exécutive des Nations Unies, qui est chargée de ces questions-là, nous dit aujourd'hui qu'il nous reste 2 ans. Donc, on n'est pas à la fin du monde, mais il nous reste très peu de temps pour inverser le cours des choses, si on peut encore le faire. Donc, voilà ce que je veux dire, moi, quand je parle d'urgence. Il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit pas d'optimisme ou de pessimisme, il s'agit de lucidité et du coup de responsabilité politique.
Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a certaines sphères plutôt confortables, des écolos assez aisés qui ont forcément tout bon, tout compris, mais qui ne voient pas que la plupart des gilets jaunes n'ont jamais pris l'avion. Alors, j'ai la faiblesse de croire que pas mal de ces écolos plutôt de milieux confortables voyagent beaucoup et taxer le kérosène. On l'entend par-ci, par-là, mais pareil, le prolo doit payer sa taxe gasoil, bagnole, boulot sans râler. Et la question de l'avion, on l'oublie en fait.
Alors je pense effectivement qu'il y a des personnes qui sont déconnectées de ces réalités sociales et qui ont le sentiment d'avoir justement des comportements très écolos parce que individuellement ils font attention, mais que effectivement derrière ça ils vont prendre l'avion, partir en vacances à l'autre bout du monde, autant de choses que ne peuvent pas faire la grande majorité de la population. Donc il faut effectivement faire attention à ces discours qui sont déconnectés. Et c'est un peu ce que je disais sur l'écosocialisme, c'est qu'il faut toujours penser la question écologique de manière liée avec la question sociale, sinon on ne s'en sortira pas.
Je mets volontairement à l'index certains écolos, je ne les mets pas tous dans le même panier. Moi aussi, je me considère comme écolo, sachez-le. Allez, on s'écoute un deuxième morceau, Simon & Garfunkel, The Boxer, et on parle d'écologie politique tout de suite après.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. A boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out, in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, lie, 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 lie,
On revient avec Corinne Morel-Darleux, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler maintenant peut-être d'un retour de l'écologie politique. On a l'impression que l'écologie s'est diluée au sein des partis. Europe Écologie Les Verts n'a pas présenté de candidat aux dernières présidentielles. Ou alors que certains écologistes imposent leur vision, comme le font les lobbies finalement, non ?
Alors, je pense effectivement que finalement, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que le centre de gravité de l'action politique en matière écologique et sociale est en train de se déplacer et que finalement ça se joue de moins en moins du côté des partis et des syndicats traditionnels et de plus en plus du côté d'une forme de société civile. Alors j'ai jamais trop aimé ce mot parce que jusqu'ici j'avais un peu du mal à voir concrètement qui ça désignait. Aujourd'hui, il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a des mouvements comme Alternativa, ATAC, des luttes locales contre des projets qui sont pas bons ni justement pour l'environnement ni pour les habitants. Et il me semble que c'est plus de ce côté-là en fait qu'il faut regarder ce qui bouge et que c'est finalement là peut-être que l'écologie davantage que dans les partis s'exprime de la manière la plus forte aujourd'hui.
Mais après, les citoyens, pour adhérer à une cause, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de voter pour cette cause ? Vous voyez, est-ce que l'écologie ne se soustrait pas à l'exercice démocratique, quelque part ?
Bah, c'est une question qui est de plus en plus brûlante, vous avez raison, parce que quand on regarde la manière dont se déroulent aujourd'hui les élections, on en a encore eu l'exemple le week-end dernier avec cette élection partielle dans l'Essonne où on a eu 80% d'abstention, mais on l'a eu aussi au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. On voit bien que finalement, le vote ne vaut pas forcément toujours adhésion à un projet, et surtout que malheureusement, le suffrage universel dans cette 5e République laisse sur le bord du chemin de plus en plus de personnes qui ne vont plus voter. Et du coup, aujourd'hui, le fait de se présenter devant les suffrages ne suffit pas à donner approbation ou à représenter la majorité des citoyens. Donc on a là une vraie crise démocratique qui est à prendre en compte totalement.
Allez, on parle de la région et du président Laurent Wauquiez, qu'on connaît bien ici en Haute-Loire. Comment ça se passe avec Laurent Wauquiez ?
Ah, écoutez, en tout cas, on s'ennuie pas.
Il ne laisse personne indifférent, c'est la fameuse phrase passe-partout.
Oui, tout à fait, il laisse personne indifférent, et puis le fait que Laurent Wauquiez soit à la fois président de région et président au niveau national du Parti Les Républicains forcément attire beaucoup les projecteurs. En plus, lui-même joue beaucoup de cette communication politique. La vie régionale est assez animée. Au-delà de la communication politique et de cet aspect très bling-bling et média, ce qui nous soucie avec mon groupe du Rassemblement à la Région, c'est surtout les politiques qu'il met en œuvre et la manière dont ça change la vie des habitants de la région. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas dans le sens, ni d'un point de vue humain, ni d'un point de vue de dynamique dans les territoires, ni d'un point de vue environnemental.
Par rapport à l'environnement, je pense que vous avez dû tomber de votre chaise par rapport aux subventions allouées aux chasseurs pour des missions de protection de l'environnement.
Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement cet épisode où des politiques, par exemple, d'éducation à l'environnement, qui étaient jusqu'ici données à des associations ou en tout cas à des acteurs assez variés, dont d'ailleurs la Fédération régionale de la chasse. Ce dispositif-là a été totalement sabré et l'ensemble des actions et des subventions qui vont avec ont été accordées à la Fédération régionale de la chasse. Du coup, environ les associations de défense de l'environnement, ce qui paraît un peu brutal et pas forcément très très judicieux. Mais on a eu aussi le cas en matière d'agriculture, où là aussi il y a eu des transferts de fonds très importants de tout un tas de réseaux d'agriculture paysanne, d'agriculture biologique et locale, qui sont allés vers les chambres d'agriculture et notamment vers la FNSEA, qui n'est pas la première à vanter les mérites de l'agriculture bio et paysanne. Donc on a eu comme ça toute une succession de changements très importants qui impactent directement la manière dont on peut ou non justement faire évoluer ces pratiques d'agriculture, de préservation des sols, d'alimentation de qualité, de manière, aujourd'hui, qui pour nous ne va pas dans le bon sens et qui ne permet pas non plus de répondre à cette crise de la biodiversité, de la pollution et de manière plus générale environnementale.
Alors pour vous, j'imagine que c'est le cas. Hein. Vous êtes considéré comme une de ses principales adversaires à la région, qui lui reproche de faire du clientélisme en Haute-Loire et au Puy, des subventions en veux-tu, en voilà. Qu'en pensez-vous ?
Alors moi, je m'oppose effectivement aux politiques de Laurent Wauquiez et puis aux projets de société que ça sous-tend. Hein. Sur le clientélisme, on a fait le travail d'aller éplucher ce qu'on appelle le compte administratif, qui est un document qui fait plusieurs centaines de pages avec plein de lignes pour voir concrètement où va cet argent public. Hein. Et ce qu'on constate chaque année, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui va du côté du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, hein, au détriment d'autres endroits où il y a les mêmes besoins. Donc ça nous pose forcément question si vous mettez ça en plus en rapport avec ce que je viens de dire sur la Fédération régionale de la chasse ou la FNSEA, qui ont été des soutiens très actifs de Laurent Wauquiez pendant sa campagne. Donc ça ne peut évidemment que nous interroger. Moi, du côté de la région où je vis, du côté des Alpes, on a le même souci sur le financement de tout ce qui est canon à neige, avec des soupçons de prise illégale d'intérêt du côté des lobbies du ski, qu'on a dénoncé aussi et sur lesquels j'ai saisi le procureur de la République. Donc voilà, on est aussi dans notre rôle d'élu quand on soulève le fait que l'argent public n'est pas forcément utilisé là où il y en a le plus besoin et quand on a le sentiment que ça peut répondre effectivement à des intérêts, à l'intérêt général.
Et la gestion exemplaire de la région, vous en pensez quoi, vous ?
Oui, sur cette question de gestion exemplaire dont s'est beaucoup vanté Laurent Wauquiez, il y a eu au mieux beaucoup d'exagérations, au pire quelques mensonges, puisque d'abord il s'est revendiqué d'une note qui serait accordée par la Cour des comptes d'un triple A qui placerait la région Auvergne-Rhône-Alpes comme étant la mieux classée par la Cour des comptes, ce qui est faux puisque ce classement de la Cour des comptes n'existe pas. Et puis surtout, plus grave, c'est que Laurent Wauquiez se vante d'avoir fait réaliser des économies à la région, alors que en réalité, parmi ces économies, c'est beaucoup de lignes budgétaires qui n'ont pas été utilisées en fait par la région, mais qui devraient l'être, parce que c'est des investissements. Dans la formation professionnelle, par exemple, qui est quand même un élément important pour former nos jeunes, pour former les chercheurs d'emploi, pour former tout un tas de gens qui en ont besoin, eh ben, on n'a pas utilisé toutes les ressources qu'on aurait pu y mettre. Alors certes, à la fin, ça permet d'annoncer des économies, mais concrètement, c'est encore plus de gens qu'on laisse au bord du chemin. Et il ne suffit pas, après, de faire des mises en scène pour aller saluer des gilets jaunes sur le bord de la route qui ont été soigneusement sélectionnés parmi les rangs des Républicains, comme l'a révélé le canard enchaîné, pour se donner une image de justicier social. Encore faut-il qu'il fasse le travail qu'il est censé faire au niveau de la région sur ces questions-là, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Corinne Morel-Darleux, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes venue un petit peu à cause de l'actualité, les gilets jaunes, mais aussi votre démission du parti de gauche ce week-end.
Oui, en fait, j'ai démissionné de la direction du parti de gauche, hein, mais je garde ma carte d'adhérente.
D'accord, merci pour cette précision. Et aussi du fait que vous êtes une opposante déclarée à Laurent Wauquiez, à la région, et votre témoignage était important. Merci beaucoup et à bientôt.